C'est fini. Tout est pourri. Il n'y aura plus jamais d'été dans le Pas-de-Calais.
Mais non.
T'inquiète, Popiette. Écoute PFM et tout va bien se passer.
Retrouvez des infos culturelles,
de la musique,
des idées,
du bouche à oreille,
dans l'émission Décibel Été sur Radio PFM.
Du lundi au vendredi de 18h30 à 19h02.
Décibel Été sur 99.9 et radiopfm.com. Vous est proposé par tout un tas d'animateurs et d'animatrices de Radio PFM, associatives, livres et sans pub.
Et voilà, chers auditeurs, c'est de nouveau un décibel été avec PCH au micro. Au menu, on aura la deuxième chronique de notre stagiaire Gabin sur la Slovénie. Donc c'est l'épisode numéro 2. Il est parti 6 mois en Erasmus en Slovénie et il nous raconte tout ça. Et c'est le deuxième épisode de sa chronique. Et après, on aura un sujet complet avec toutes les intervenants que j'ai interviewés à la Banque de Béthune pour les deux expositions de David Guillet et aussi le directeur Eiffou au premier étage. Mais ça, c'est pour après. Et on va d'abord écouter Christelle, que j'ai reçue dans Décibel Été avec le réalisateur et compositeur Damien Nison, qui a réalisé ce petit mini-album. Et j'ai choisi le titre Petite Turbulence, qui était un des titres les plus accrocheurs. Et on écoute Petite Turbulence de Christelle avec une composition de Damien Nison.
Dans ma tête, si tu pars demain, viens me chercher. Besoin d'une mise au point complète. Si tu passes demain, viens m'embrasser. Faut pas que ça t'inquiète, ces petites turbulences soudain qui m'entêtent. Faut pas que ça t'inquiète, ces petites turbulences, parfois si indiscrètes. protéger. Ces petites turbulences, c'est aimer pour me protéger.
Voilà, Christelle avec une composition musicale de Damien Nison. Ils sont venus dans Décibel Été. Vous pouvez réécouter l'émission pour parler de ce mini-album de 6 titres. On a d'ailleurs, c'est un peu appesanti sur ce titre-là, pour parler composition et paroles, puisque c'est Christelle qui fait les paroles et Damien qui fait la musique. Damien Nison fait partie de l'association BTV Balance ta voix pour le chant amateur. Et je vous signale qu'à la rentrée, il y aura le samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre, il y a un stage pour apprendre à chanter ou confirmer avec les deux frères Nison, Damien Nison et Jean-Benoît Nison, sur à la fois la présence scénique, sur le placement de voix, sur la justesse, le jeu de scène, et tout ça pendant 2 jours complets, donc samedi 4 et dimanche 5, pour la somme de 120 €. Et c'est l'association Balance ta voix qui propose ça avec une participation des deux frères Nison. Voilà, on avait parlé succinctement. Je voulais rappeler ça pour la rentrée du mois de septembre. On va écouter maintenant Bobby sur la pointe des pieds. Vous savez que on a eu l'occasion de le voir sur scène, Éric Bleuzet et ses comparses au Casino d'Arras. Et donc on va écouter un titre. J'ai Fantaisie, donc c'est un standard de Bobby Lapointe, repris par le trio d'Éric Bleuzet et de ses deux comparses. Et après, on entendra le sujet complet sur la banque de Béthune avec les deux expositions visibles actuellement jusqu'au 12 décembre 2021. C'est parti.
Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités. Sous les regards concupiscents de ses copines, le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mets un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, allons au ciné.
Allons au ciné.
Ma du quartier, ce serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie. Youpi, youpi,
c'est amusant de voir les gens qui en sortant
ont l'air si triste. Ah là là, c'est triste. À ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade.
Doberdan, auditrice et auditeur de PFM. Nous reprenons la route de la Slovénie pour ce second épisode de la série consacrée à mon pays d'adoption lors de ces 6 derniers mois. Après vous avoir parlé de l'indépendance slovène il y a seulement 30 ans, j'évoque aujourd'hui les tensions politiques actuelles que j'ai constatées sur place. Des tensions liées à un homme, Janez Janša. Le premier ministre slovène depuis mars 2020 divise la population du pays et a pris un tournant nationaliste depuis son retour au pouvoir. Pourtant, il fut un temps où Janez Janša était considéré comme un véritable héros de l'indépendance ainsi qu'un grand défenseur des minorités. Cette époque est révolue, je vous propose d'en savoir plus sur le parcours de celui que l'on appelle parfois le Donald Trump slovène. C'est en 1989 que Janez Janša, alors âgé de 41 ans, devient le leader de l'opposition slovène face à un gouvernement toujours rattaché à la Yougoslavie. Il défend l'indépendance et est nommé ministre de la Défense après la victoire du oui au référendum de 1990. Un poste primordial puisqu'il l'exerce durant la guerre de Slovénie Il est alors considéré comme un héros qui a permis au pays de trouver son autonomie. Au début de sa carrière, il est même maoïste et mène plusieurs combats progressistes, comme sur l'écologie, le droit des femmes ou encore celui des LGBT+. Mais il doit démissionner suite à plusieurs affaires de corruption, une pratique qui devient presque sa marque de fabrique. Lors de mes discussions avec des Slovènes, un mot revenait très souvent à propos de Janez Janša, corrompu. Après avoir été Premier ministre à plusieurs reprises, entre 2004 et 2008 et entre 2012 et 2013, il est d'ailleurs forcé de quitter le pouvoir et est même condamné à 2 ans de prison ferme. Il en fera 9 mois. C'est en 2018 que Janša fait son retour dans la vie politique avec une ligne beaucoup plus nationaliste. Son discours est xénophobe, il dénonce une vague migratoire, mais échoue à réunir une majorité. Après la démission du Premier ministre de l'époque en début d'année 2020, il se prononce en faveur d'élections législatives anticipées et les remporte avec une campagne toujours plus extrême. Il est chargé de former un gouvernement par le président de la République slovène, Borut Pahor. Ce dernier est de centre-gauche, mais loin de notre 5ème République française, la politique intérieure du pays est ici clairement dirigée par le Premier ministre, tandis que le président est réduit à une magistrature morale et une représentation internationale. Au pouvoir depuis mars 2020, Janez Janša mène une politique que l'on peut qualifier d'autoritaire. En reprenant la main sur les médias, comme lorsqu'en début d'année il coupe les financements de l'agence de presse nationale STA en la qualifiant de honte nationale, mais aussi sur les institutions, notamment culturelles, avec de nombreux limogeages. En novembre 2020, 150 intellectuels et universitaires dénoncent une prise de contrôle des institutions culturelles dans une pétition. Le gouvernement slovène a d'ailleurs été convoqué en mars dernier pour une discussion sur le respect des valeurs fondamentales. Le pays s'est retrouvé aux côtés de la Pologne et de la Hongrie. La Hongrie, justement, dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, auquel Janez Janša apporte un soutien sans faille. Même au mois de juin, lorsque la Hongrie vote une loi homophobe assimilant l'homosexualité à la pédophilie. Les deux pays marchent main dans la main et cela inquiète, d'autant plus que la Slovénie assure cette année la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Une fierté pour le pays, cependant malvenue dans une période de dérive autoritaire. Bref, Janez Janša, c'est Viktor Orban sur le fond, ultra-conservateur, nationaliste, populiste, homophobe et islamophobe, et Donald Trump sur la forme. Le Premier ministre slovène a en effet bien compris comment gagner une élection à l'ère d'Internet. Dans le sillage de l'ex-président américain, Janez Janša s'exprime énormément sur Twitter depuis 2018. Il a même atteint une moyenne de 100 tweets par jour en mars 2021, ce qui lui a valu le surnom de Maréchal Tito, une référence à l'ancien dirigeant de la Yougoslavie, le Maréchal Tito. Face à ce tournant politique que prend la Slovénie, la population est divisée et un climat de tension s'est installé. L'opposition slovène a tenté de renverser Janez Janša à plusieurs reprises avec le vote de mention de destitution en février et en mai dernier, mais celles-ci n'ont pas été approuvées. De nombreuses manifestations ont également eu lieu depuis plus d'un an. À Ljubljana, les opposants au gouvernement se retrouvent tous les vendredis pour montrer leur engagement et la défense des idéaux de l'indépendance. Le 28 mai dernier, ils étaient même plus de 40 000 dans les rues de la capitale, un chiffre inédit pour ce petit pays. Janez Janša est aujourd'hui au plus bas taux d'opinion favorable depuis mars 2020, moins de 30%. À l'opposé de cette tension politique dans le pays, la Slovénie a heureusement d'autres atouts extraordinaires à apprécier. S'offrir une séance de bronzage sur le littoral, s'émerveiller devant les grottes de Postojna, ou s'offrir une balade romantique autour du lac de Bled, une semaine de vacances en Slovénie, ce sera le sujet du prochain épisode. Nasvidanje!
Provisoire FM 99.9.
Yo escucho PFM todos los días.
jusqu'au 12 décembre 2021, deux expositions sont visibles à la Banque de Béthune, centre de production et de diffusion en art visuel. Il s'agit premièrement de l'exposition de Nicolas Guillet, Déranger les murs, que l'on subodore par les interventions plastiques sur la façade de la banque. Des petites équerres bleutées ou des barres bleutées, y compris sur l'ancien écriteau marqué Banque de France, au fronton, au-dessus de l'entrée principale. L'exposition se situe au niveau du plateau, de la serre, de la salle des archives et de la salle des coffres, au gros au rez-de-chaussée et au niveau inférieur du rez-de-chaussée. Au premier étage, le groupuscule artistique Les Pas Perdus propose une exposition qui s'intitule « Le directeur est fou » dans l'ancien appartement du directeur de la Banque de France. Cette exposition se trouve être une guirlande de meubles récupérés à Emmaüs qui traverse l'appartement de haut en bas. Les jeudis 22 et vendredi 23 juillet ont été l'occasion à des enfants de plus de 8 ans de s'initier au cinéma d'animation. Animé par Samia Zahir, étudiante en dernier cycle et réalisatrice de films d'animation 2D, et après avoir lancé son atelier avec les enfants, Samia répond à mes questions. Vous venez de commencer un atelier d'initiation à l'animation 2D. Comment ça se présente avec à partir de 8 ans, je crois, hein ?
Oui, c'est bien ça. Écoutez, ça se présente assez bien. Les enfants sont débordants d'imagination. Donc après, il suffit juste de canaliser un peu ça. Mais pour le moment, les choses se présentent plutôt bien.
Vous avez fait une petite présentation sur tous les types de films d'animation. Mais peut-être que vous lancez en fait l'histoire, vous allez la construire au fur et à mesure de l'animation finale que vous allez faire au bout de ces deux jours, puisque ça se situe en partie aujourd'hui et demain.
Oui, c'est bien ça. Après, en deux jours, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment construire quelque chose de conséquent. Donc là, ils sont surtout partis sur des gags, sur une petite animation. C'est pour ça que c'est de l'initiation, c'est que ça permet de voir un peu comment ça se passe, et j'espère que ça réveillera d'autres envies chez eux de peut-être faire des choses un petit peu plus ambitieuses, peut-être pas forcément avec l'animation, mais en tout cas de construire un truc, de construire une histoire, de construire des images, vraiment c'est des choses que j'ai envie de réveiller chez les plus jeunes.
Et vous-même, vous avez quel rapport au film d'animation ? Vous avez déjà pratiqué beaucoup ou c'était l'occasion là de vous y mettre ? Ou vous avez une formation plutôt artistique, plutôt dans l'animation, ou bien c'est très général ?
Moi, de formation, je suis réalisatrice de métrages d'animation. J'ai une formation assez technique en cinéma d'animation. Puis ensuite, j'ai fait une école pour me spécialiser dans la réalisation, dans la recherche de concepts, d'esthétiques qui correspondent au type de réalisation que j'ai envie de faire. Donc je suis plus dans la conception et dans la réalisation de films d'animation. Et puis à côté de ça, je suis intervenante artistique.
Et vous avez participé à, vous avez fait vos études dans quelle école ?
J'ai fait mes études dans un premier temps à l'ESAT, à Roubaix, donc l'École supérieure des arts appliqués et du textile. J'ai fait un diplôme des métiers d'art en cinéma d'animation. Et ensuite, j'ai fait un master en audiovisuel, pareil en département cinéma d'animation au CASC. Donc c'est le conservatoire ou l'Académie royale des beaux-arts de Gand. Ils ont un département en fait en cinéma d'animation. Et ils sont plus axés du coup sur la réalisation. Alors qu'à l'ESAT, c'était un peu plus technique. Même si en vrai, c'est très ouvert à l'ESAT et qu'il y avait plein de profils différents. Mais on était vraiment amenés à se perfectionner techniquement au niveau du dessin et des techniques d'animation.
Et à Gand, c'était un enseignement en anglais ou en flamand ou...
Oui, c'était en anglais, enfin c'était en flamand, mais bon, vu que je ne suis pas néerlandophone, moi c'était en anglais, du coup voilà, et oui, c'était en anglais du coup.
Vous distinguez entre cette école-là et ce que vous avez pu en France, c'était quoi? Vous avez pu développer différentes sensibilités selon les endroits où vous étiez?
Oui. Bah, disons que en France, bah, c'est aussi parce que c'est, enfin, l'ESAT, c'est une école publique. Du coup, c'était un peu, bah, c'était vraiment la course, quoi. C'était très intense et tout. Mais du coup, c'était vraiment axé sur les connaissances techniques, mais aussi savoir présenter un projet, vraiment savoir se vendre, savoir défendre un projet d'animation. Et en même temps, oui, vraiment être se perfectionner techniquement. Donc c'était très, c'était une formation très exigeante. Alors que à Gand, c'était un peu plus.
Bohème.
C'est une école, enfin c'est un conservatoire de beaux-arts. Donc c'était plus axé sur des séminaires. C'était vraiment axé sur, enfin se donner du temps pour réfléchir à des concepts. C'était totalement opposé à l'ESAT, mais du coup c'était cool, c'était vraiment complémentaire. Ouais. Oui. Ça. J'avais moins l'impression d'être dans une course, ça me laissait plus de temps pour réfléchir à des choses intéressantes à faire.
Et ma dernière question, c'est, vous avez eu l'occasion d'aller au festival d'Annecy, puisque c'est là, encore en France, il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui se montrent d'ailleurs.
Tous les ans j'y vais, et j'y étais d'ailleurs cette année, et c'était très chouette, et c'était assez étrange, parce qu'avec avec la pandémie, il n'y avait pas tous les étudiants étrangers, donc il y avait beaucoup moins de monde. Bon, c'était cool parce que du coup on avait plus facilement accès aux séances, et non, c'est vraiment super chouette. Il y a plein de choses super intéressantes à voir. Il y a plein de enfin c'est assez éclectique au niveau de la sélection.
Et vous présentiez un film ou juste pour en voir plein les murettes?
C'était pour en voir plein les murettes, mais j'en envoie un cette année, j'espère qu'il sera sélectionné.
D'accord. Donc vous avez des projets justement à l'avenir, à part de continuer à intervenir, mais en réalisation ou en collaboration?
J'ai des projets de court-métrage. Enfin, là je viens de boucler mon court-métrage de fin d'études et je suis en train de travailler sur deux autres court-métrages que j'auto-produis. Et sinon, à côté de ça, j'ai un projet de série sur lequel je suis en écriture actuellement et que j'avais déjà présenté du coup au cartoon Springboard, et donc qui s'appelle Les Noces Bleues. Voilà, et j'espère qu'il aboutira.
On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
On écoute maintenant l'interview du petit Lisandre et de son frère qui participent à cet atelier d'animation 2D.
Si tu peux donner ton prénom, s'il te plaît.
Lisandre.
Bonjour Lisandre. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vois que tu viens avec. Tu as dessiné des choses. Qu'est-ce que tu fais?
Une marionnette.
C'est une marionnette que tu vas faire quoi avec ta marionnette?
Un film.
Tu les découpes dans du papier couleur ou papier blanc là? Finalement, tu fais quoi?
On découpe dans du papier de couleur.
Ça va être vert. Alors, c'est quoi le personnage?
C'est Hulk.
C'est Hulk? Alors, il est fort là.
Ouais.
Alors, t'as fait des gros muscles, c'est ça?
Non.
Merci. C'est ton frère, en face. Toi, tu fais quoi?
Moi, je fais... c'est dans un jeu vidéo que j'ai eu à mon anniversaire. C'est Fantastic Sackman.
Ouais.
C'est Spider-Man, mais dans les 4 Fantastiques.
D'accord. Donc, t'as repris le personnage?
Ouais.
Super. Et donc là, c'était dans les tons bleus. T'as fait une... C'est une roquette ou un, c'est quoi?
T'as ça, des... c'est son corps.
Ah oui, d'accord. C'est... Oui, c'est ça. Le reste, c'est ses membres qui vont pouvoir s'animer.
Oui.
T'es parti sur du bleu, alors?
Oui.
Est-ce que le personnage est bleu, déjà?
Oui. Ouais, il est bleu.
Merci.
Et enfin, un entretien avec Marie, la médiatrice, qui nous explicite toutes les activités à la Banque de Béthune du mois de mai à décembre 2021, en direction de la jeunesse.
Les ateliers d'animation viennent de commencer. Est-ce que, Marie, vous pouvez expliquer comment ça se déroule pour les enfants et comment vous les accueillez?
Alors, tout l'été, nous accueillons les enfants dès 6 ans, le jeudi et le vendredi de 14h à 15h30, pour des ateliers d'initiation aux pratiques artistiques, en lien avec les expositions. Et de 16h à 17h30, il y a des ateliers parents-enfants dès 4 ans, qui sont organisés donc deux fois par semaine, juillet et août.
Dès 4 ans, 4 ans, c'est jeune. Comment on s'adresse à un public à partir de 4 ans? C'est particulier pour les initier à l'art, c'est, comment ça se passe?
En fait, ce sont vraiment des ateliers qui débutent par une discussion autour, souvent en fait, d'une œuvre d'art qui va être exposée, donc qui est vraiment tirée de l'une des deux expositions présentées actuellement. Et à partir d'une thématique ou d'une technique qu'ils vont voir dans l'exposition, ils vont créer avec l'adulte. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer, qui est vraiment de... Le but de l'atelier, c'est vraiment de renforcer le lien parent-enfant et de faire ensemble. Donc le fait que l'enfant soit petit, de toute façon, les animations, en fait, l'atelier, il est vraiment adapté à l'enfant. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils fassent ensemble, en fait, en duo. Donc l'enfant, il n'est jamais démuni face...
C'est des duos, des binômes parents et enfants, en fait, c'est ça?
En fait, l'atelier des 4 ans, c'est vraiment le binôme parent-enfant. L'atelier où l'enfant est seul, c'est dès 6 ans. Donc il est déjà plus autonome pour créer. Et de toute façon, il est toujours encadré par la médiatrice qui est formée pour accueillir les enfants, quel que soit leur âge.
Alors vous évoquiez tout à l'heure les grands-parents. Alors c'est quoi? C'est des trios ou des duos avec le grand-père et le petit-enfant?
En fait, l'atelier grands-parents ou parents-enfants, c'est au choix. C'est les familles qui choisissent. Le parent qui peut accompagner l'enfant. Ça peut être un duo adulte-enfant. Ça peut être un adulte avec deux enfants. Parfois, on a des familles avec le grand-père, la grand-mère et puis les deux petits-enfants. Donc, c'est vraiment à chacun de s'adapter et de venir en fonction de ses envies.
Alors, l'initiative, vous sentez que c'est quelquefois c'est les grands-parents qui ont envie de faire une activité avec leurs petits-enfants. Comment ça se passe? Comment vous sentez l'impulsion de départ quand il y a des grands-parents, par exemple, avec leurs petits-enfants?
En fait, c'est vraiment l'envie de chaque famille, ça dépend vraiment de chacun. Pendant l'été, souvent, les grands-parents, ils sont sollicités pour la garde des petits-enfants. Et le fait de proposer aussi des activités pour ce binôme-là, c'est quelque chose qui est assez recherché et demandé. Et nos ateliers, pour l'instant, sont souvent complets.
Parlons un peu de l'exposition actuellement. Présente, il y en a même deux. Peut-être que vous faites des ateliers en lien avec une seule exposition. Comment ça se passe actuellement?
Alors en fait, pour les ateliers enfants ou parents-enfants, on va toujours essayer de partir de l'une des deux expositions, d'une œuvre, d'une thématique qui va être abordée par l'une des deux, et ensuite créer l'atelier autour de cette thématique, de cette technique. Donc c'est vraiment construit aussi en lien avec la programmation actuelle.
Alors j'ai vu qu'il y a une exposition à l'étage, c'est « Le directeur est fou ». Ça doit amuser les enfants, ça. Comment ça peut donner, qu'est-ce que ça peut donner lieu comme dialogue parent-enfant ou grand-parent-enfant?
Alors, pour « Le directeur est fou », donc c'est l'exposition d'un collectif qui s'appelle « Les pas perdus ». Et ce qu'ils ont réalisé, en fait, c'est une grande guirlande de meubles qui part du début de l'appartement, qui va traverser tout l'appartement. Et c'est une exposition qui peut être assez facile à aborder avec les familles, les enfants. Ils sont tous en capacité d'identifier le mobilier, les éléments qui ont été utilisés, que ce soit des éléments 2D ou 3D pour l'installation. Donc c'est une exposition qui est assez facile, oui, à aborder avec les enfants. Oui.
Alors, il faut signaler que quand on dit l'appartement, c'est l'ancien appartement de l'ancien directeur de la Banque de France, parce que ici, c'est une ancienne Banque de France qui est devenue un centre culturel. Et donc, j'imagine que l'exposition, quand vous y pensez en amont, vous pensez déjà un peu aux ateliers qui vont pouvoir se faire avec. C'est pensé ensemble, j'imagine.
En fait, toute la programmation de la banque, elle est conçue en fonction de la programmation des expositions et tout est en lien. Donc, toute la programmation de l'action culturelle, elle est pensée en fonction de thématiques qui sont abordées forcément par les artistes, des techniques, etc. Donc, tout est conçu, en fait, tout se rejoint, tout est lié.
Alors, en l'occurrence, là, dans la programmation jusque décembre, qu'est-ce qui est pris dans les expositions pour donner quoi dans les ateliers ou dans les actions, on va dire? Oui.
Alors, au niveau des événements, il y a notamment, en fait, un travail qui a été initié il y a plus d'un an avec une compagnie qui s'appelle le Tirer la Lyre, qui est une compagnie de théâtre qui crée des visites olfactives qui sont inspirées directement de l'une des deux expositions, qui est l'exposition de Nicolas Guillet, qui s'appelle « Déranger les murs ». Et donc, la compagnie est venue plusieurs fois en création à la banque pour créer sur site, sur place, en fonction des œuvres, une visite olfactive. Donc, c'est une visite qui sera organisée en octobre sur un week-end. Et ils ont également adapté une visite qu'ils avaient déjà conçue pour une banque toujours en activité et qu'ils ont adopté vraiment pour l'ancienne Banque de France de Béthune, où là on propose une visite olfactive du bâtiment. Donc voir en fait comment les lieux qui étaient chargés de faire fructifier, de conserver l'argent, finalement ils partaient d'une phrase de Vespasien qui était « l'argent n'a pas d'odeur », mais voilà, en est-on si sûr en fait. Et donc ils créent comme ça des visites olfactives exposition et également du bâtiment. Donc ça c'est vraiment une création pour la banque et ça sera au mois d'octobre, voilà.
J'ai vu qu'il y a eu des ateliers de tissage aussi, de tissage éphémère ou quelque chose comme ça.
Alors en fait, c'était des ateliers de tissage végétal qui ont été organisés le 3 et le 17 juillet dernier, donc deux samedis après-midi pendant 4 heures. Et c'était un studio qui s'appelle le Studio Hydra, qui est basé à la condition publique. En fait, ce sont deux jeunes designers textiles qui proposent ces ateliers d'initiation au tissage textile. Donc vraiment, l'objectif, c'est de créer un tissage dans lequel, à partir de fils, de laine, et dans lequel on va venir introduire des végétaux.
La condition publique qui est basée à Roubaix, et donc il y a une grande histoire de textile qui est derrière ça. On a fait le tour de toutes les actions qui sont en lien avec l'exposition, ou on en a oublié?
Alors il y en a une qui va être intéressante, je pense, c'est pour les journées du patrimoine, où il y a l'intervention notamment du conservatoire communautaire de danse, donc le samedi après-midi et le dimanche après-midi, 15h30, 17h30, avec les enseignants de danse qui ont vraiment créé des chorégraphies, leur intervention aussi en fonction des œuvres exposées, notamment l'exposition de Nicolas Guillet, travailler sur le pas de côté, sur l'équilibre, le déséquilibre, avec des créations qui sont vraiment in situ. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra venir découvrir en septembre.
Donc là, c'est une compagnie de danse. L'autre, c'était une compagnie de théâtre, ou c'est les deux mélangés, mais maintenant les arts n'ont pas forcément de frontières entre elles.
Ouais, alors en fait là c'est le conservatoire communautaire de Béthune-Bruay qui est invité à intervenir, donc c'est vraiment l'idée de travailler aussi avec les équipements culturels du territoire, mais à chaque fois en fait au niveau de la programmation des événements, l'objectif c'est vraiment de proposer une lecture qui va être différente, qui va être complémentaire des expositions, donc que ce soit notamment par les arts vivants, ça peut être le théâtre, la danse, la musique, le cirque, donc on essaie comme ça chaque année de renouveler et de proposer quelque chose de varier et d'apporter aussi une intervention qui va répondre à la création d'eux ou des artistes exposés.
Et avec le cirque, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire je ne savais pas, j'ai surpris avec l'univers circassien, c'est vrai que c'est très varié, on peut faire plein de choses avec le cirque.
Alors en fait, avec le cirque, c'était avec le Centre Régional des Arts du Cirque de l'Homme, donc le CRAC. On avait travaillé avec les deuxièmes et les troisièmes années, puisque c'est un centre de formation pour les circassiens, et sur une exposition passée qui s'intitulait Vertige. Et l'idée, c'était de leur proposer, de donner leur propre interprétation du thème du vertige, avec la chute, l'idée de la chute, le déséquilibre, l'équilibre, etc. Donc ils étaient intervenus deux fois dans l'exposition, et c'est un travail aussi qui s'inscrivait en fait dans leur année. Ils sont invités régulièrement à intervenir sur des sites de la région et à proposer des créations spécifiques.
Merci beaucoup. Ouais.
Ces deux expositions sont visibles jusqu'au 12 décembre 2021 à la Banque de Béthune, centre de production et de diffusion des arts visuels, 44 place Georges Clémenceau, dans l'hypercentre de Béthune. L'Imbank est un équipement culturel de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane. Ce sujet a été réalisé par Pierre-Charles Boisdin de Radio PFM.